C'est vrai que ça bataille. Mais quand ça bataille, moi je dis, c'est bon signe. C'est la preuve qu'on est en train de vivre un culte spirituel et pas seulement naturel. On est en présence du Dieu vivant. On n'est pas juste en présence les uns des autres. Alors, il ne faut pas se laisser faire. Soyons plutôt encouragés, soyons dans la joie. André a parlé de la première semaine de jeûne et prière qu'on vient de vivre. C'est vraiment encourageant. On était environ 20-25 à chaque fois et on a vraiment vécu des moments super forts. Et le but de ces 21 jours, c'est de se mettre devant Dieu, c'est de pouvoir étaler notre cœur devant Dieu, c'est pouvoir être complètement disponible pour qu'il nous façonne, pour qu'il nous dirige pour la suite. Qu'il nous montre aussi si on a pris des mauvaises voies. Et c'est aussi dans cet état d'esprit qu'on va vivre certains cultes jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que presque toutes mes prédications jusqu'à la fin de l'année, elles s'appuient sur le livre de Malachie. On a eu la semaine passée la première prédication sur cette série, et puis il était question de Jacob et Ésaü. C'était le peuple d'Israël qui n'avait pas confiance en l'amour de Dieu, qui lui dit « Mais en quoi est-ce que tu nous as aimés ?» Et Dieu leur a expliqué qu'il a préféré Jacob à Ésaü parce qu'en fait, il a regardé le cœur de Jacob. Jacob, lui, il a saisi quelles étaient les bénédictions en Dieu, quelle était sa destinée s'il pouvait avoir la bénédiction de Dieu. Il a compris la valeur du droit d'aînesse et il a tout fait pour l'avoir. Jusqu'à tricher, on est d'accord, c'était pas forcément la bonne voie. Mais n'empêche qu'il a vu, il a mis sa foi en action et il a marché avec Dieu. Et au bout d'un moment, le peuple qu'il a engendré s'est refroidi et se dit « Mais Seigneur, en quoi est-ce que tu nous as aimés ?» Alors Dieu leur explique en quoi il les a aimés. Et le deuxième tableau que nous allons prendre aujourd'hui, il va un peu plus loin. Il est plus difficile. Du coup, j'ai intitulé le titre de mon message « Tout notre cœur, sinon rien ». Vous pouvez le dire vous-même. Devant Dieu, vous fermez les yeux. « Tout mon cœur, sinon rien ». « Tout mon cœur, sinon rien ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous vous souvenez du contexte, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. En fait, Malachie, il a été écrit environ 100 ans après que le peuple d'Israël qui était en exil ait pu revenir à Jérusalem. Ils ont pu reconstruire le temple, ils ont pu reprendre le culte dans le temple, mais c'est plus comme avant. Le temple qui avait été détruit et reconstruit, il est un peu rafistolé, il est vraiment pas somptueux comme il l'a été. Et en plus de ça, l'oppresseur est toujours là. Ils sont pas complètement libres, ils sont dans un monde hostile, et en fait, ils se sont un peu refroidis. Ça faisait des décennies et des décennies que les prophètes disaient qu'il y a un Messie qui va arriver, qu'il y aura la paix à Jérusalem, que tout Israël sera unifié, qu'il y aura même la paix dans les nations, et c'est pas le cas. Alors ils sont complètement désabusés, et ils commencent à faire un peu n'importe quoi. À tel point que même les sacrificateurs ne remplissent plus leur rôle au niveau du culte, au niveau de ce qu'ils doivent faire pour le culte, pour Dieu, ils ne remplissent plus leur rôle. Ils méprisent le nom de Dieu. Ils méprisent leur service pour Dieu. Alors, on va voir ce que Dieu dit aux sacrificateurs, quel est le dialogue qu'il y a avec eux. Et rappelez-vous, en arrière-fond, comme ça, que aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs du Dieu vivant. Nous sommes un peuple de prêtres, de sacrificateurs. Si je mélange les deux mots, dites-vous que c'est des synonymes. Prêtre, sacrificateur, c'est pareil. Ça dépend quelle traduction vous avez en français, mais c'est pareil. Nous sommes les sacrificateurs aujourd'hui. Alors ce message, il s'adresse aux sacrificateurs du temps de Malachie, mais il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous concerner. Si je prends le premier verset du passage que je vais vous lire, on est dans Malachie 1, à partir du verset 6. « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dieu rappelle une deuxième fois qu'il est père. Dieu, il est le père d'Israël. Il est le maître. Ce mot maître, c'est Adon qui donne Adonai. Il est le maître et le père. La qualité d'un père, c'est d'aimer, c'est d'édifier, c'est d'instruire, c'est de protéger, c'est d'aider à faire grandir, c'est d'accompagner dans la vie. Dieu est un père pour Israël. Et il est un maître. Le maître, c'est celui qui donne du travail, c'est celui qui délègue un service, mais c'est celui aussi qui rémunère, et c'est celui qui donne une certaine protection sociale. C'est quelqu'un à qui on doit l'honneur. Il est écrit dans la loi d'Israël, « Honore ton père et ta mère ». Et ça, le peuple juif, ils le savent. Mais là, ils sont dans un sale état, et c'est les sacrificateurs qui profanent le nom de Dieu, ils comprennent pas pourquoi. Ils devraient exprimer leur reconnaissance d'avoir été tellement aimés, que Dieu a été tellement fidèle au peuple de Jacob pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles, et en fait, ils en sont complètement à ras des pâquerettes. Alors allons voir ce que Dieu leur reproche. Au verset 7 de Malachie 1, « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant, « La table de l'Éternel est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. « Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? » dit l'Éternel des armées. Il y avait des prescriptions pour les sacrifices. Les sacrificateurs, en fait, c'est la descendance de Lévi. Et les Lévites, ils s'étaient consacrés au Seigneur. Quand il y a eu l'histoire du veau d'or, à un moment donné, tout le peuple a dit à Aaron, fais-nous un veau d'or, parce que Moïse, il est parti dans la montagne pour prier, on l'a plus revu, on ne sait pas s'il va revenir, fais-nous un veau d'or, ce sera notre Dieu. Et quand Moïse est revenu, ça s'est pas très 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 bien passé, et il a demandé, c'est Dieu au travers de Moïse qui a demandé que ceux qui sont pour moi se lèvent. Et les Lévites se sont levés. Nous, on a choisi, on est pour Dieu. Et les Lévites ont dû aller tuer leurs frères dans le camp pour éradiquer les personnes qui avaient détourné le peuple, qui étaient idolâtres. Et en fait, ils ont dû montrer par là même qu'ils allaient se donner entièrement pour le Seigneur, entièrement pour le service du Seigneur. Et c'est pour ça, en voyant leur cœur, un cœur entier pour l'Éternel, que l'Éternel a dit « Vous serez mes sacrificateurs ». Et au fil des siècles, c'est eux qui étaient responsables du culte, responsables du tabernacle pour commencer, responsables du transport, responsables du soin, responsables du culte en lui-même. Et il y avait des prescriptions, il y avait des prescriptions pour les sacrifices. Et ces prescriptions, on les voit dans Lévitique 22, les versets 18 à 22. Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Il fallait des sacrifices sans défaut. Pas de boiteux, pas d'aveugles, pas d'estropiés, des sacrifices des animaux qui soient sans défaut. Dieu demandait même le premier-né des animaux. Imaginez, vous avez un bœuf et qui commence à grandir, à être costaud, et enfin un taureau pour commencer, et qui vraiment vous mettez votre espoir dans ce taureau parce que il va pouvoir vous fournir un revenu, il a pas de tâche, il est vraiment bien bâti, et ben c'est lui que vous allez lui trancher la gorge pour l'offrir à l'Éternel. Tout notre cœur sinon rien. C'est ce que le Seigneur demande. Et là, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Là, les sacrificateurs, ils amènent des bêtes boiteuses, des bêtes aveugles. Ils sont complètement hors des prescriptions de l'Éternel. Et en plus de ça, ils arrivent dire la table de l'Éternel, c'est-à-dire l'autel, l'endroit où on sacrifie, l'autel des sacrifices est digne de mépris. C'est ça qu'ils disent. Et ils s'en rendent même pas compte. Parce que le Seigneur doit leur poser la question. Il dit, vous méprisez mon nom et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont anesthésiés. Ils n'ont plus de perception spirituelle. Le problème des sacrificateurs, c'est que, d'une part, ils sont négligents. Ils négligent leur devoir de prêtrise ou de sacrificature. Ils négligent ce que l'Éternel attend d'eux. Ils ne donnent pas du soin à ce qu'ils font. Ils le font un peu olé olé. Ils méprisent le service de Dieu et par là, ils méprisent Dieu lui-même. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils recherchent non l'approbation de Dieu, mais ils recherchent l'approbation des hommes. Dans tout ce qu'ils font, dans leur service, dans leur louange, ils recherchent l'approbation des hommes. Ils donnent des bêtes avec des yeux crevés, et là, Dieu leur dit, donne-le à ton gouverneur, tu verras bien. Imaginez un peu, vous travaillez dans une cuisine, une grande cuisine, et puis vous êtes un ouvrier cuisinier, et à un moment donné, le chef, qui est un chef renommé, il vient vers vous, puis il vous dit, je t'ai choisi. Il y a mon fils qui va avoir son anniversaire, j'aimerais que ce soit toi qui fasses son gâteau d'anniversaire. Vous allez voir dans le frigo ce qu'il y a, vous prenez les ingrédients, il y a des œufs, mais dans tous ces œufs, il y en a un qui est pourri. Mais le problème, c'est que il y a juste le nombre qu'il faut. Il vous dit, ah, c'est pas grave, ça va se noyer de la masse. Vous faites votre gâteau avec stuff pourri, mais il y en a plein d'autres, ça va équilibrer, c'est pas grave. Et puis vous allez apporter ce gâteau. Est-ce que vous allez faire ça? Combien de fois est-ce qu'on met un œuf pourri dans notre louange à l'Éternel? Puis on se dit, ça va se noyer dans la masse. Mais l'Éternel n'est pas dupe. L'Éternel n'est pas dupe. Quand tu t'es enguirlandé avec ta femme, quand t'as dit des choses méchantes à tes enfants, et puis qu'après, tu viens au culte, puis que tu lèves tes mains au Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un œuf dépassé de date dans ta louange? Quand tu triches aux impôts pour essayer de recevoir un peu plus. Quand t'es pas un exemple dans ton travail. Quand à l'école tu dis autant de choses mauvaises que tous les autres. Est-ce que quand tu viens au culte, quand tu viens dans ton lieu secret, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait d'abord remettre au Seigneur? Le culte, pourquoi c'est important que les sacrifices, il n'aient pas de défaut? Parce que le culte, ça permet la rencontre. La rencontre entre la personne humaine et avec Dieu. Le culte, c'est un point de contact. C'est un point de contact avec l'humain et le divin. C'est un point de contact avec le naturel et le surnaturel. Le culte que l'on vit ici, ou le culte que l'on vit dans notre lieu secret, ou le culte que l'on vit dans les groupes de maison, ou pendant les séances de prière, le culte qu'on rend à Dieu, c'est un point de contact. C'est un point de contact avec le ciel et la terre. Et Dieu est pur, Dieu est saint. On peut pas mélanger, on peut pas mettre de l'impureté en Dieu, c'est pas possible. Il y a qu'une façon de venir vers lui, c'est au travers de Jésus. C'est au travers de Jésus parce que lui peut nous purifier, lui peut laver, lui peut pardonner. C'est seulement comme ça qu'on peut y aller. Mais quand on veut pas passer par Jésus, quand on veut pas se repentir, quand on veut pas aller demander pardon à notre frère ou à notre sœur qu'on a blessé, le Seigneur il le voit. Et nous, ça nous rend pas service. Ça change rien à la nature de Dieu, ça change rien à sa gloire. Pour lui, quelque part, il en est pas affecté. Mais nous, oui. Nous, oui, parce qu'on reste en rade et on n'arrive pas à atteindre ce point de contact et on n'arrive pas à entrer pleinement dans notre destinée. Et c'est pour ça qu'il veut un cœur tout entier. Il veut pas seulement un cœur à l'église pendant le culte, il veut pas seulement un cœur entier pendant notre temps de prière à la maison, même si on prie à genoux, même si on prie 1 heure, 2 heures, il veut un cœur entier à chaque instant. Chaque fois que tu décides de mettre un frein à ta langue, tu es en train de rendre un culte à Dieu. Chaque fois que tu accueilles une offense et que tu la gères et que tu fais grâce, tu rends un culte à Dieu. Chaque fois que tu renonces à te faire ta propre justice, tu rends un culte à Dieu. Et tu arrives à ce point de contact. Et plus tu le fais, plus ta vie, elle s'élargit, plus le Seigneur peut te remplir, plus tu es proche de lui, plus tu peux avoir des réponses à tes prières, plus ta vie commence à s'épanouir, à se développer. C'est Jésus qui disait dans Matthieu 5, si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord régler ça avec lui avant de venir au culte. C'est tellement grave que Dieu, il peut pas recevoir ces offrandes que les sacrificateurs lui offrent. Et au verset 10, il est dit, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. En fait, c'est de voir ces bêtes qu'on lui apporte, qui ont une patte manquante ou une patte cassée, puis on peut rien en faire. Ces bêtes infirmes qu'on amène comme sacrifice, le Seigneur, mais il dit, mais non, mais moi je veux même pas les voir. Mais mettez même pas le feu sur l'autel, ça sert à rien de les consumer. Je veux pas en entendre parler. Éloignez-vous de ça, ça m'horripile. Ne faites surtout pas ça. Il est vraiment dur. Mais c'est tellement grave qu'il va encore plus loin, il en rajoute une couche. Au verset 11, Dieu plaide pour son nom. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations. Il n'y a pas seulement en Israël qu'on élève nos louanges à Dieu. Toute la terre, un jour, tout genou fléchira au nom du Seigneur. Un jour, toute langue confessera le nom du Seigneur. Et il est en train de leur rappeler la grandeur de son nom. Mais la suite, mais vous, les sacrificateurs, vous, mon nom, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Non seulement ils négligent le rôle, ces sacrificateurs, les sacrifices, la louange, l'honneur, la gloire qu'ils doivent rendre au Seigneur, non seulement ils négligent leur sacrificature, mais en plus de ça, ils se rendent pas compte que c'est eux qui souillent l'autel de l'Éternel. Ils se plaignent. Ils disent, mais c'est méprisable cet autel, elle ne nous rapporte rien. Ils se plaignent, ça nous rapporte rien, il n'y a aucun profit. Mais ils se rendent pas compte que c'est eux qui souillent. C'est eux qui sacrifient. Il y a leur propre sacrifice, mais il y a aussi le sacrifice que les gens apportaient. Et que eux devaient sacrifier. Donc, quand les gens apportaient une bête avec des yeux crevés aux sacrificateurs, ben, les sacrificateurs, leur rôle, c'était de dire, écoute, c'est vraiment bien de ta part d'avoir amené un sacrifice, mais il faut que tu repartes avec, parce qu'il ne peut pas être agréé de l'Éternel. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils se sont conformés à l'esprit du monde. Ils ont changé les lois de l'Éternel. Ah, c'est pas grave, maintenant tout le monde le fait. Et ça, c'est entré dans l'Église. Dans notre Église, dans l'Église universelle. Ils profanent l'autel avec des mauvais sacrifices. C'est même pas tellement leurs paroles qui profanent l'autel. Mais c'est leur comportement. Et en plus de ça, ils recherchent du profit. Il faut que ça rapporte. Donc l'état de leur cœur, mais il est complètement mal, à des années-lumière de ce que demande le Seigneur. Et en plus de ça, ils sont avares et ils sont cupides. Non mais c'est grave, il y en a vraiment des couches. Mais pourquoi? Parce que, et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Donc, en plus de ça, ils amènent quelque chose qui ne leur coûte rien. Ils l'ont piqué. Ils sont allés piquer à une bestiole au voisin et hop, sur l'autel des sacrifices. « Seigneur, je t'aime, tu es grand. » Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et en plus de ça, c'est fatigant. Quelle fatigue! Ça les fatigue de prendre un temps de prière. Ça les fatigue de prendre un temps de louange. Ça les fatigue d'avoir un temps de fraternisation. Fraternité? Fraternisation. Ça les fatigue de se présenter devant la table du Seigneur. Aujourd'hui, la Sainte Cène, on va pas pouvoir la prendre. Mais quand elle est là, ça les fatigue. Ah, il y a encore ça. Parce que le cœur n'a pas compris. Parce qu'ils font les choses pour les faire. Parce qu'ils ont commencé à avoir une mentalité religieuse. Mais c'est pas une mentalité d'amour. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Dieu attend d'eux. C'est bon des fois de se poser la question. Et nous, dans l'Église, qu'est-ce qu'on permet? Tous, hein? Il y a déjà les responsables de l'Église. Qu'est-ce qu'on permet? Qu'est-ce qu'on tolère? Et quand on dit non, comment ça se passe? Comment ça se passe pour les responsables? Et comment ça se passe pour les personnes à qui on dit non? Et puis de manière individuelle, qu'est-ce qu'on tolère? Quand je viens au culte simplement, qu'est-ce que je tolère? Est-ce que c'est l'esprit du monde qui m'influence ou est-ce que je recherche l'approbation de Dieu dans tout ce que je fais? Que ce soit ici ou ailleurs. Quelque part, peu importe que mes frères et sœurs le voient, ce qui m'importe, c'est que Dieu le voit. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. En fait, les sacrificateurs à l'époque, ce qu'ils n'ont pas compris, et souvent nous, on ne l'a pas compris non plus, c'est que Dieu, il a créé notre cœur de manière à ce qu'il ne soit jamais comblé totalement par les choses naturelles. Dieu a créé notre cœur de manière à ce qu'il ne soit jamais comblé à 100% par les choses naturelles. Ça veut dire qu'on peut se combler un peu avec de la nourriture. On peut se combler un peu avec la communion fraternelle. On peut se combler un peu en faisant du sport, des loisirs, en regardant un bon film. On peut se combler un peu en ayant un bon revenu, un bon travail qui fait qu'on a une maison, qu'on a une aisance financière, une aisance, une sécurité. On peut être comblé un peu en étant marié. Mais il y aura toujours un vide. Parce que Dieu a créé notre cœur avec une partie que seul Dieu peut combler. Il y a du surnaturel, il y a du divin, il y a du spirituel, et c'est seulement ça qui peut combler notre cœur. Et les sacrificateurs, là, ils n'ont pas compris ça. Donc ils essayent de se combler seulement avec les choses humaines. Donc en fait, ce qui demande du travail, ce qui crée de la fatigue, eh ben ils vont le fuir, parce que la fatigue, ça comble pas. Par contre, donner de sa personne, donner la plus belle bête de son troupeau, ça coûte. Alors non, on va prendre plutôt les plus fragiles. En fait, ils n'ont pas compris le principe et c'est pour ça qu'ils ne s'approchent pas de manière juste du Seigneur. Mais ce que le Seigneur veut, c'est toujours se poindre en contre. Il veut notre cœur entièrement parce qu'il veut nous transformer. Il veut transformer nos vies, il veut nous élargir. On l'a vu avec l'image du potier. Hein, vous vous souvenez cette vidéo qu'on a vue dimanche passé où il y a cette motte de terre sur le tour du potier et le tour qui tourne, la motte de terre, elle tourne et le potier, il mouille ses mains, il s'implique dans cette terre. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il entre ses doigts dans la terre et puis il les écarte. Et c'est ce qui va donner la forme au vase et c'est ce qui va élargir la terre. Il y a toujours la même masse de terre. Mais elle va s'élargir, elle va avoir une belle forme et Dieu pourra remplir le vase. C'est ce qu'il veut faire avec nos vies. Mais il peut le faire seulement s'il y a ce point de contact. Et ça veut dire tout notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive du premier coup, on est en marche. Mais ça veut dire que quand on a conscience qu'on s'est trompé, qu'on a fait du mal ou qu'on est sur une mauvaise voie, ça veut dire revenir de notre mauvaise voie. Ça veut dire demander pardon à notre frère, à notre sœur. Ça veut dire demander pardon à Dieu. Ça veut dire mettre tout ce qu'on peut pour changer des mauvaises habitudes. C'est être en route. C'est être en route. Ça veut pas dire se culpabiliser, s'auto-flageller parce qu'on a raté. C'est pas ça. Mais ça veut dire se mettre en route pour plaire au Seigneur, pour chercher l'approbation du Seigneur et pour avoir ce point de contact. Dans la suite de ce passage, il continue au chapitre 2. À un moment donné, Dieu, il est vraiment dur. C'est tellement, tellement, tellement grave, l'état des sacrificateurs, qu'il leur dit, les sacrifices que vous me donnez, ben en fait, moi, ça ne me va pas du tout. Donc, je vais maudire vos bénédictions. Et je vais prendre les excréments de ces sacrifices et je vais vous les jeter au visage. Enfin, il a tout un langage qui est... Waouh, quand j'ai lu ça, je dis, mais Seigneur, moi, je peux pas prêcher sur autre chose. Enfin, c'est dur, c'est un passage qui est extrêmement dur. Mais en fait, moi, ce que j'arrive aussi à comprendre pourquoi il dit ces choses-là, c'est parce que quand nous, on a une disposition de cœur qui ressemble à celle des sacrificateurs de Malachie, ben c'est comme si on jetait des excréments au visage de Dieu. Parfois, on a des attitudes, c'est exactement ça. Et on s'en rend pas compte. Les sacrificateurs, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils étaient aveuglés. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient tellement loin de Dieu. Mais heureusement, Dieu le rappelle. Il le rappelle leur antécédent. Il le rappelle ceux qui les ont précédés. Lévi, le peuple de Lévi, qui a été choisi, qui s'est donné à l'Éternel, qui a décidé d'être sans compromis au moment où il a dit « Oui, moi, je choisis, je suis pour l'Éternel ». Et voilà ce que Dieu dit. On est au chapitre 2, à partir du verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Le Seigneur est en train de rappeler, j'ai une alliance avec Lévi. Tout comme il avait une alliance avec Jacob. En fait, dans Malachie, il y a plein de reproches, mais il y a surtout le rappel que Dieu a une alliance avec nous. Et nous, on est au bénéfice de la meilleure alliance, par le sang de Jésus-Christ. Et là, il le rappelle, je suis un Dieu d'alliance, je suis fidèle à mon alliance, mais regardez vos pères, ils ont été fidèles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient de la crainte, ils avaient du respect pour l'Éternel. Et ça a fait que ça a influencé tous leurs actes, toutes leurs paroles, toutes leurs décisions, toute la gestion, tout ce qui leur était confié, ils ont eu de la crainte pour l'Éternel. S'ils étaient chefs d'entreprise, ils ont géré tous les domaines de leur entreprise dans la crainte de l'Éternel. S'ils étaient étudiants, ils ont géré leurs études dans la crainte de l'Éternel. S'ils étaient pères de famille, ils ont géré le fait d'être père avec la crainte de l'Éternel, etc., etc. Et il n'y avait que la vérité dans leur bouche. Ils n'avaient qu'une parole. Leur cœur n'était pas partagé. Leur cœur était entier pour Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que, au verset 6, Dieu dit que Lévi a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Lévi, il a marché avec Dieu. C'est pas Dieu à des années-lumière en avant, ou Dieu derrière, ou Dieu loin à côté. Non, ils ont marché ensemble. Bien sûr, Dieu est au-dessus. Bien sûr, Dieu a l'autorité, Dieu est plus grand. On est d'accord. Mais la relation qu'il y avait entre Lévi et Dieu, c'était de marcher avec, marcher main dans la main, marcher ensemble. Et c'est ce que Dieu nous offre, de marcher avec lui. À chaque instant, marcher avec lui. À chaque instant, toute la journée, d'être en prière, toute la journée, de dire, « Et Seigneur, toi, tu ferais comment ?»« Seigneur, aide-moi, montre-moi, montre-moi, illumine mes yeux, montre-moi, donne-moi l'intelligence pour gérer cette situation. » Seigneur, là c'est dur, là ça fait mal, là je me suis repris un coup, c'est vraiment dur, aide-moi à pardonner. Voilà, voilà ce qu'on est appelé à faire en tant que sacrificateur. Et qu'est-ce que ça a eu pour résultat? Tout le cheminement de Lévi, qui a décidé d'être un sacrificateur selon le cœur de l'Éternel, il a été en chemin, il a marché avec Dieu, et le résultat, c'est que il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Par ses enseignements, le sacrificateur a un devoir d'enseignement par ses paroles quand c'est le temps de parler, pas seulement ici comme donner une prédication, mais dans la vie de tous les jours, dans nos relations, par notre parole. On doit enseigner les gens. Quand on dit à quelqu'un qui vient critiquer et puis qu'on dit « Écoute, moi je préfère ne pas entrer dans cette discussion », là je suis en train d'enseigner. Je suis en train d'enseigner « Écoute, la calomnie elle n'est pas bonne. Moi je ne participe pas. » On est des enseignants par nos actes. Et on est des enseignants par nos vies qui se transforment. Quand on voit quelqu'un qui était haras des pâquerettes et qui commence à se relever et qu'on voit l'œuvre de Dieu qui développe cette personne et que cette personne prend les bonnes dispositions, qu'elle fait les bons choix et qu'on la voit se transformer, se développer, c'est un témoignage. C'est un enseignement. Et c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à nous présenter devant Dieu pour avoir ce point de contact d'adoration pour lui. Mais lui, il est tellement fidèle et il est tellement bon qu'il vient nous rejoindre, qu'il nous élargit, qu'il nous remplit de lui, qu'il nous fait marcher avec lui. On a une vraie relation qui se met en place. Et c'est ce que Dieu demande de nous. Il demande à ce qu'on arrête de donner des bestioles tout estropiées. Il veut le meilleur de nous-mêmes. Il veut tout notre cœur qui ne peut être complet que par lui. Que par lui. Tout le reste, tout ce qu'il nous a donné, c'est des cadeaux. Et c'est pour ça qu'on a pris ce temps de jeûne. C'est qui nous montre, c'est quoi les bêtes estropiées qu'on lui apporte, individuellement et en église. Et qui nous montre, Seigneur, comment marcher avec toi, comment enseigner. Et qui nous montre quand c'est qu'on recherche plutôt l'approbation des hommes, c'est-à-dire aussi quand est-ce qu'on a peur des hommes plutôt que craindre Dieu. C'est pour qu'il nous montre toutes ces choses-là, pour qu'on puisse revenir pleinement à lui, qu'on puisse être à l'exemple de Lévi. En fait, dans tout ce passage, c'est Dieu qui doute de l'amour d'Israël pour lui. Parce que l'état d'esprit d'Israël, au moment de la prophétie de Malachie, en fin de compte, c'est celui qui a conduit à la formation des sectes. Les pharisiens, les sadducéens, n'existaient pas avant. Mais c'est pendant la période entre les deux testaments, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que ces sectes ont émergé. C'était des religieux purs et durs, et ils ont été en opposition durant tout le ministère de Jésus. Et bien cette mentalité-là, des sacrificateurs, c'est ce que ça a donné, et c'est ce qu'on doit fuir. Dieu ne veut pas d'actes religieux, il veut notre cœur. Il veut que nous soyons sans reproche, sans tâche, avec nos deux yeux, pour pouvoir nous rencontrer. Il veut nous offrir la rencontre entre le naturel et le surnaturel, un cœur à cœur avec lui qui nous transforme, qui nous change. Parce qu'il a scellé son alliance dans le sang de Jésus-Christ à la croix. C'est tellement grand ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il désire qu'on lui appartienne pleinement, pour faire la différence sur la terre. Et si on marche comme ça dans ses voies, on sera prêt. Quoi qu'il arrive, les temps sont durs et vont l'être encore davantage. Mais si on marche dans ses voies, on sera prêt. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on le soit. Mais on est en train de se préparer. On court. Là, on court pour se préparer. Et quand le jugement viendra, on ne sera pas sous ce jugement. Parce qu'on sera tellement proche de Dieu. Je vous propose de prendre juste un moment de silence pour juste vous présenter devant Dieu et faire le point. Ça peut être de demander, mais c'est quoi, moi, mes offrandes qui ne te conviennent pas? Ou qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Juste qu'on puisse chacun se présenter devant Dieu pour faire le point. Si quelques-uns aimeraient prendre un engagement devant Dieu en disant « Ben, cette chose-là, Seigneur, j'aimerais que ça change et je m'engage à travailler pour que ça change. » Eh ben, en témoignage devant Dieu, moi, je vous invite à vous lever. Il n'y a pas besoin de dire de quoi il s'agit, mais vous le dites à Dieu. Recherchez l'approbation de Dieu. Dieu, il le sait, Dieu, il le voit, Dieu, il l'entend. Si quelqu'un aimerait prendre un nouvel élan ou alors régler quelque chose, ou qui vient de comprendre quelque chose, puis qui se dit, ben, c'est bon, moi cette fois je vais dans cette direction-là. Je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, tu vois toutes les personnes qui sont levées. Seigneur, tu connais leur cœur, tu sais ce qu'il y a dans leur cœur, tu connais leurs pensées. Je te remets chacun, Seigneur. C'est pas devant les hommes qu'ils sont debout, mais c'est devant toi. Rien n'est caché à tes yeux. Tout est nu et découvert. Seigneur, c'est à toi qu'ils ont des comptes à rendre. Mais toi, tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu qui a fait une alliance de vie et de paix. Une alliance d'amour, une alliance de pardon, une alliance de restauration, une alliance d'encouragement. Et Seigneur, moi je te remets toutes ces personnes qui sont debout. Je te demande de les encourager. Je te demande de leur donner le comment faire. Je te demande la puissance de ton Saint-Esprit qui illumine les yeux de leur cœur, qui renouvelle leur intelligence, qui élargisse l'espace de leur tente pour qu'ils puissent comprendre, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en ordre pour toi, qu'est-ce qui doit changer dans leur vie, où est-ce que tu aimerais les mener. Je te demande qu'ils puissent atteindre ce point de contact avec toi, avec le naturel et avec le ciel, avec le surnaturel. Seigneur, je te demande que ce point de contact, ils l'ont déjà vécu, ils l'ont déjà connu, mais que ça devienne quotidien, que ça devienne régulier, et que ça prenne toujours plus de puissance, et que tu puisses prendre toujours plus de place dans leur cœur, que tu puisses te déverser toujours plus, que leur vie soit transformée, qu'ils fassent la différence là où tu les as placés. Je te demande de les encourager. Donne-leur la force, donne-leur le courage s'il y a des décisions à prendre, donne-leur la force de résister. Donne-leur l'intelligence au niveau de leurs paroles. Donne-leur de mettre un frein à leur langue. Donne-leur d'être juste dans leurs affaires. Donne-leur, Seigneur, d'avoir ton cœur dans tout ce qu'ils doivent gérer, penser, faire, décider. Je te demande aussi de leur donner la grâce dans les relations. Quand ils doivent corriger, quand ils doivent reprendre, quand ils doivent refuser, donne-leur la grâce, donne-leur le comment faire. Quand ils doivent accuser un refus, donne-leur le cœur qui soit capable d'accepter. Seigneur, que ton Église, tout ce que nous sommes, que nous représentons, que nous formons, que ton Église te glorifie dans toutes nos attitudes. Viens à notre aide, viens à notre secours, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire. Mais je te remercie parce que tu donnes ta grâce. Que ta grâce soit sur toutes ces personnes qui sont debout. Seigneur, qu'ils puissent repartir d'ici convaincus de ta sainteté. Convaincu que tu es avec eux, que tu marches avec eux, que tu es toujours avec eux, qu'ils pourront toujours te demander conseil, qu'ils pourront toujours te demander ton Saint-Esprit, qu'ils pourront toujours te demander ton assistance. Seigneur, mets un ange à leur côté et qu'ils marchent avec toi. Je les bénis dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. Amen. juste pour conclure, certains d'entre vous, vous recevez les lettres de nouvelles, enfin, je sais pas si c'est une lettre de nouvelles, mais de Alain ou d'Hercet. Il y a juste une petite phrase que je vous laisse comme ça. Et il dit, arrêtez de faire de la prière, parlez-lui.